Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Alors je rappelle d'un mot le contexte des enseignements de cette année, c'est-à-dire de situer la pièce perdue de Shakespeare et Fletcher de 1613, Cardenio, dans une double chronologie. Une chronologie qui est une chronologie synchronique, c'est-à-dire essayer, et c'est le travail du séminaire, de comprendre les liens qui peuvent exister entre les trois pièces écrites en collaboration par Shakespeare et Fletcher dans les années 1612, 1613, 1614. Et c'est pourquoi, dans le séminaire, je me suis intéressé d'une part à Henri VIII et d'autre part à The Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins, et d'autre part, dans le cours, d'essayer de réfléchir sur une seconde dimension, qui n'est pas la dimension synchronique, mais la dimension diachronique, et d'essayer de comprendre dans quelle mesure la pièce représentée en 1727 et éditée en 1728 de Lewis Theobald, Double Falsehood, était, comme il le prétend, une adaptation, révision de ce qu'il appelait une chère relique, c'est-à-dire la pièce pour lui shakespearienne de 1613. Et ce travail nous a conduit dans deux directions jusqu'à maintenant. L'une qui était à travers la personnalité riche, complexe, intéressante de Lewis Theobald, de comprendre la relation qu'un critique shakespearien a qualifiée de schizophrénique entre le XVIIIe siècle anglais et le théâtre élisabétain, et en particulier les pièces de Shakespeare, schizophréniques, puisque d'un côté, elle est marquée par la plus grande liberté dans les révisions et adaptations de pièces qui, à la différence de Cardenio, existent encore et donc peuvent être lues, et dans leur version de la Restauration ou du début du XVIIIe siècle, ceux qui les adaptent et révisent les transforment extrêmement profondément. C'est ce qu'avait d'ailleurs fait Théobald lui-même avec Richard II. Et d'un autre côté, la naissance au XVIIIe siècle, et particulièrement avec Lewis Theobald, d'une volonté de respect philologique pour le texte authentique, le véritable texte tel que Shakespeare l'avait voulu, pensé, rêvé, dicté ou écrit. Et cette tension est tout à fait fondamentale. Et d'autre part, avec le travail du dernier cours, nous nous étions intéressés à cette édition même de 1728 de la pièce « Double Falsehood » qui permettait à la fois de comprendre tous les mécanismes qui, au début du XVIIIe siècle, pouvaient donner authenticité à une revendication. En ce cas, énoncer la pièce comme shakespearienne, et du coup, on y voyait à la fois des dispositifs qui appartiennent aux relations de patronage, faire endosser par celui à qui la pièce est dédiée la garantie de son authenticité, ou bien des mécanismes qui avaient à voir avec le rapport entre le pouvoir et l'édition, puisque, comme je l'avais dit, de manière très exceptionnelle, dans cette édition de 1728 de Double Falsehood, on a le texte entier surmonté des armes royales, du privilège donné par le roi à Théobald pour l'édition. Et d'autre part, on avait pu étudier dans cette édition de 1728 les différentes répliques que Théobald adressait à ceux qui doutaient de l'authenticité shakespearienne de la première pièce supposément pour eux adaptée par Théobald, et que dans ces nombreuses formes de réponses à ces critiques, il y en avait une particulièrement intéressante qui concernait la construction d'une histoire du manuscrit de la pièce et qui mettait sur la piste d'une possible première adaptation du texte de 1613 pendant la Restauration par la troupe de Davenant pour des représentations qui auraient pu avoir lieu dans les années 1660, ou même si elles n'ont pas eu lieu, la préparation d'un manuscrit qui aurait pu servir à ces représentations. J'en étions donc là, et je crois qu'il est temps maintenant d'entrer dans le théâtre de Drury Lane en décembre 1727 et d'essayer de réfléchir sur le spectacle qui a été présenté et sur la pièce que les spectateurs ont vue avant de pouvoir la lire l'année suivante dans les deux éditions successives de 1728 de Double Falsehood. Le spectacle a commencé comme il se devait par un prologue, héritage du temps élisabétain, où prologue est un personnage des pièces. Ici, le prologue est dit par un des acteurs de la troupe, Wilkes, qui, dans la représentation, jouera le rôle de Henriques, c'est-à-dire le Fernando de l'histoire de Cardenio. Et ce prologue est un prologue écrit par Philip Froude, qui est un ami de Théobald. Ils appartiennent au même parti Whig, au même parti pro-gouvernemental et au même parti pro-monarchique. Et du coup, le prologue de Philip Froude vise à produire une double identification. D'une part, une identification que l'on pourrait dire esthétique et civique, c'est-à-dire d'identifier le British mind, l'esprit anglais, avec le génie de Shakespeare, parce que l'un et l'autre sont grands, libres, sans bornes, ouverts. C'est là certains des vers du prologue de Froude. Et donc cette identification qui va se renforcer ou qui déjà est à l'œuvre dans la première partie du XVIIIe siècle, voire peut-être dès la Restauration, c'est-à-dire le fait qu'à travers un auteur qui est le poète national, peuvent être lus le plus profond, le plus important, le plus décisif du caractère national. Et d'autre part, politiquement, le prologue établit une identification entre le temps d'Élisabeth, qui était le temps de Shakespeare, et le temps contemporain, celui où cette chère relique a été sauvée et donnée à entendre de nouveau, et qui est le temps d'un nouvel Auguste, qui est le règne de Georges III, ce nouvel Auguste étant le souverain qui fait sienne les muses. Et on retrouve ici un des parallèles qui était très cher à Théobald et à d'autres dramaturges du début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de comparer le temps de Shakespeare, dans le cas de Théobald, Southampton, qui était celui auquel Shakespeare avait dédié ses premiers poèmes, le viol de Lucrèce ou Vénus et Adonis, et il le comparait à Doddington, c'est-à-dire celui auquel Théobald lui-même dédiait Double Falsehood, et ici le parallèle se déplace sur la figure royale avec ses deux protecteurs des lettres que fut Élisabeth et qu'est alors dans le temps contemporain ce nouvel Auguste, Georges III. Ce qui est intéressant aussi dans ce prologue, c'est que peut-être inspiré par la rhétorique du folio de 1623, lorsque Heming et Condell ont réuni les Comedies, Histories and Tragedies de Shakespeare, Froude, dans ce prologue, oppose le génie de Shakespeare, qui est tout entier inspiré par la nature, à ce qu'il appelle « the pedant school », l'école des pédants. Alors, on a peut-être là un écho à la critique que ce parti et que Théobald adressait à Pope et son édition de 1725, c'est-à-dire d'avoir domestiqué Shakespeare, de l'avoir poli de façon telle que cette force de la nature qui s'exprime dans les pièces et dans les vers avait été détruite ou pour le moins fortement amputée. Les règles de bienséance et d'autre part une forme de contrôle du texte tel que Pope l'opère en 1725, puisque vous vous souvenez, lorsqu'il rencontre des passages qui lui paraissent indignes de la plume du grand poète, parce qu'ils sont grivois, grossiers, vulgaires, il les dégrade en les publiant en notes, et comme s'il s'agissait de corruption du texte introduit par des improvisations des acteurs. Et donc, il a une vision de Shakespeare qui le conduit à éditer le texte selon des critères de politesse, de bienséance, et qui peuvent être considérés comme une forme d'amputation de la force vitale, celle de la présence de la nature dans le texte shakespearien. Et du coup, Freud développe cette idée selon laquelle la grandeur de Shakespeare tient à ce que, je cite, « il connaissait intimement la nature ».« Nature so intimately Shakespeare knew ». Et c'était un argument de Heming et Condell, l'idée que la nature parlait à travers Shakespeare et que celui-ci, sans une seule rature dans ses manuscrits, avait transmis cette inspiration à ses textes eux-mêmes. Et la frontière est délicate parce que, évidemment, être si près de la nature, c'est aussi pouvoir être inspiré dans les sentiments par ce que Freud appelle une vérité sauvage, une irrégularité. Et tout l'enjeu de ce prologue, c'est d'essayer de maintenir cette inspiration de Shakespeare habitée par la nature, y compris dans ses formes qui sont celles de les plus sauvages ou les plus irrégulières, et en même temps de montrer que c'est là la raison même de la beauté des vers de Shakespeare, et de là la construction de concepts paradoxaux comme celui de irregularly sweet, une sorte d'irrégulière douceur ou de douce irrégularité, et compare Freud les pièces shakespeariennes à un paysage dans lequel il y aurait une profusion, une diversité sauvage, mais qui s'unirait dans une sorte d'unité qui, elle, serait la raison même de la beauté. One beauteous wilderness, une sauvagerie unifiée qui est une et qui est magnifique. Le prologue désigne, je crois, de manière très aiguë, à la fois, bien sûr, le conflit politique qui oppose Theobald et Freud et le parti Whig au parti de Pope et de ceux qui sont dans une opposition au gouvernement. Il désigne aussi cette opposition esthétique entre une régularisation au nom de la bienséance et des règles du texte contre un respect plus historique de ce qui en fait la caractéristique, mais en même temps cette grandeur sauvage, libre, qui est vantée comme étant à la fois le propre du texte shakespearien et le propre du caractère anglais, the British mind, et doit être inscrite dans un certain nombre de limites qui le rendent compatible avec les règles nouvelles qui régissent la pratique du théâtre, et en particulier la civilité et la bienséance, ce qui fait que Théobald se trouve lui-même pris dans ce travail de révision et d'adaptation qui, fondé sur l'inspiration naturelle et sauvage du texte shakespearien, d'où découlent ses beauties, ses beautés, néanmoins, comme on va le voir dans la pièce qu'il propose au spectateur et ensuite à l'édition, se soumet à un certain nombre de contraintes qui, dans un sens, impose cette régularité qui, peut-être paradoxalement, était l'opposé de la douce irrégularité ou de l'irrégulière douceur qui caractérisait le texte shakespearien. Après, on entre dans la pièce, et c'est le premier acte. Et alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est d'essayer de comparer, confronter à des moments décisifs cette pièce, Double Falsehood, avec Don Quichotte, puisqu'évidemment on ne peut pas la comparer directement avec la pièce perdue de 1613. Donc ce que l'on peut essayer de faire, c'est de mesurer des écarts dans la manière de montrer ou de narrer l'histoire de Cardenio entre la pièce de 1728 et le texte de Cervantes, soit dans son édition espagnole de 1605, soit quelquefois dans la traduction de Shelton de 1612, laissant ouvert la question de savoir si les deux dramaturges, Fletcher qui lisait l'espagnol et Shakespeare, ont utilisé directement le texte de Cervantes, ce que pouvait très bien faire Fletcher, ou s'ils sont passés par la médiation de la traduction de Shelton. Et vous vous souvenez qu'un des arguments pour donner raison à Théobald et pour authentifier le fait qu'il disposait d'un manuscrit d'une pièce ancienne au moment où il écrit cette révision et adaptation, c'est le fait que dans une vingtaine de cas, on rencontre dans les vers de Théobald des formules, des structures de phrases, des images ou un vocabulaire qui viennent directement de la traduction de Shelton et non pas d'autres traductions postérieures, fin XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, ce qui pouvait laisser supposer donc qu'il était là dépendant d'un texte premier qui lui-même avait intégré, avec de très faibles déplacements, des phrases, des formules entièrement conforme avec la traduction de 1612. C'est donc là un premier travail de cette comparaison, et le deuxième, ce serait évidemment de poser les hypothèses quant aux raisons et au moment des écarts entre ce que l'on peut lire dans Cervantes directement ou à travers la traduction de Shelton et ce que l'on peut voir sur la scène de Drury Lane ou lire dans l'édition de 1728 avec The Double Falsehood. Sont-ce des révisions qui doivent être imputées à Théobald ou bien aux premiers auteurs, Fletcher ou Shakespeare, ou éventuellement, si l'on admet la thèse qu'il développe sur l'histoire de ce manuscrit qui aurait été entre les mains de Davenant et ensuite d'un des acteurs de la troupe de Davenant, Betterton, une adaptation du milieu du XVIIe siècle. Dès le début, en tous les cas, dès les premières scènes, le premier acte, le lecteur qui connaissait Don Quichotte pouvait reconnaître dans l'histoire qui lui était racontée l'histoire des amours de Cardenio. Mais en même temps, il pouvait être surpris dans la mesure où l'ouverture de la pièce, scène 1, acte 1, est un dialogue entre deux personnages qui n'ont pratiquement aucune consistance dans le récit de Cervantes, c'est-à-dire une conversation entre le duc Angelo et son fils aîné Roderick, qui n'apparaissent que comme des personnages extrêmement évanescents dans le récit de Cervantes, Roderick étant le frère aîné de Fernando dans le récit de Cervantes, mais sans une consistance particulière, et d'autre part, le duc n'a pas un très grand rôle dans l'histoire des amours malheureuses et puis heureuses de Cardenio. Et la conversation entre le duc et son fils aîné, donc presque absent du texte de Cervantes, a pour motif l'inquiétude à la fois du duc et du fils aîné devant les inconduites, les indisciplines de son autre fils, le frère cadet de Roderick, qui s'appelle dans la pièce de Théobald Henriques et qui, lui, est le personnage de Fernando dans le récit de Cervantes. Et qu'il a insisté pour s'éloigner de la cour et de là une inquiétude du père et du frère aîné sur ce qu'il est en train de faire. Et la deuxième scène est aussi une scène de dialogue qui donne de l'importance à des personnages qui sont nommés au mieux ou à peine esquissés dans le récit de Cervantes. D'abord, c'est une série de trois dialogues, cette deuxième scène. Un premier dialogue entre Julio, qui est le Cardenio de Théobald, et son père Camillo, qui a reçu du duc l'ordre de l'envoyer à la cour, donc de quitter le lieu où ils habitent. Puis ensuite, un dialogue entre Julio et Leonora, qui est la Lucinda de Théobald, et qui commence comme une dispute amoureuse, Leonora reprochant à Julio de ne pas encore avoir demandé le consentement de son père pour leur union, et qui s'achève en fait, après cette scène de dispute amoureuse, par une réconciliation et la réitération, la réaffirmation de la promesse réciproque que se sont fait les deux jeunes gens. Julio doit partir donc pour la cour et laisser Leonora dans le lieu où ils demeurent l'un et l'autre. Et elle réaffirme cette foi engagée je serai merveilleusement fidèle, wondrous faithful, déclare Julio, pardon, et la jeune fille répond, je demeurerai vôtre, I will remain yours. Donc on a un écho ici à ces promesses de présence, c'est-à-dire l'engagement compris l'un et l'autre pour cette union et la promesse de leur futur mariage. Et le dernier dialogue, c'est le dialogue entre Leonora et son propre père, Don Bernard, qui exprime quelques réticences à l'égard de Julio, qu'il qualifie de « a little folly tainted », il a un petit peu un grain de folie, et qui dit attendre la demande en mariage que doit lui faire le père de Julio, Camillo. On voit immédiatement qu'il y a d'une part la présence des pères, qui est infiniment plus forte que dans le récit de Cervantes, où ils ne sont pas absents, mais où leur rôle est extrêmement limité, l'intrigue se déroulant à l'intérieur des relations entre Lucinda et Cardenio, Leonora et Dorothea et Fernando. Donc il y a une très forte présence des pères et donc du coup une structure de la pièce où le rapport père-enfant va être tout à fait essentiel, mais dans des termes qui sont beaucoup plus proches des termes de l'héritage des comédies de Molière, c'est-à-dire la tension entre les commandements des pères qui veulent imposer des mariages, des unions à leurs enfants, et d'autre part la revendication de la liberté du choix et de la liberté des amours des fils et des filles. Il y a donc là une comédie domestique qui se met en place avec les deux premières scènes du premier acte de Double Falsehood, et qui développe, du coup, qui s'appuie, mais en les développant, et vous voyez, en donnant une importance à quatre personnages qui, dans le récit de Cervantes, sont infiniment moins présents, le duc, son fils aîné, et les deux pères, le père de Julio Cardenio, qui s'appelle Camillo, et le père de Lucinda Leonora, dont Bernard. Et ce sont des éléments qu'on trouve dans le chapitre 23, lorsque pour la première fois, Don Quichotte rencontre Cardenio et que Cardenio commence le récit de ses infortunes. La rencontre se passant dans la Sierra Morena, où Cardenio a fait retraite par désespoir d'amour, et où Don Quichotte, pour imiter Amadis ou Orlando, se retire à son tour. Et les éléments que donnait, sous forme de mention brève, Cervantes dans ce chapitre 23, deviennent la matière à partir de laquelle se construisent ces personnages et d'autre part se construit cette intrigue de comédie domestique, un peu comme les premières scènes dans la première version du Cid de Corneille, une intrigue domestique autour de l'inconduite des enfants et autour des désirs de mariage des uns et peut-être des volontés contraires des autres. Dans ce premier récit, en effet, qui est celui de Cardenio dans le Quichotte, qui est interrompu brutalement parce qu'une dispute naît entre Cardenio et Don Quichotte à propos d'un détail de l'Amadis de Gaulle, et ils en viennent aux mains après cette différence d'interprétation sur la vertu ou la chasteté respectée ou non de la reine Madassima. Cardenio avait rappelé qu'il était tombé amoureux de Lucinda, qu'il s'était fait promesse de mariage, que le père de Lucinda avait accepté cette union, mais qu'il lui restait une dernière étape, c'est-à-dire de demander le consentement de son propre père à lui, et que c'est à ce moment-là qu'il avait été appelé par le fils aîné du duc, qui dans le texte de Cervantes a pour nom Ricardo, auprès de lui, et c'était lors de ce déplacement à la cour qu'il était devenu l'ami moins du fils aîné, mais plus du fils cadet, c'est-à-dire Fernando. Alors là, l'acte se termine avec une troisième scène et qui doit être lue en rapport avec la première du second acte, qui met à profit non seulement ce récit de Cardenio, qui dans ce premier récit avait rappelé, mais presque en passant, que ce fils cadet du duc Fernando, avec lequel il avait tissé un lien d'amitié, était dévoré par le désir de posséder la fille d'un riche paysan, Dorothea, et que pour la conquérir, pour parvenir à ses fins, il lui avait fait promesse de mariage. Mais du coup, la pièce anglaise de 1613 ou de 1728 va lier immédiatement cette indication de Cardenio dans son propre récit avec le récit qui survient cinq chapitres plus loin, c'est-à-dire au chapitre 28, qui était le premier chapitre de la deuxième partie du livre de 1605, dans lequel le curé, le barbier, qui sont entrés dans la Sierra Morena pour récupérer Don Quichotte, qui ont rencontré à leur tour Cardenio, qui a donc achevé le récit de ses infortunes avec eux, après avoir été interrompu, comme je le disais, dans son premier récit par la querelle sur Amadis de Gaulle avec Don Quichotte. Et il rencontre ces trois personnages, le curé, le barbier et Cardenio, une jeune personne, une jeune femme, qui est Dorothea, qui, elle, raconte de son point de vue ce qui avait été mentionné, le désir de Fernando et la promesse de mariage pour obtenir le consentement de la jeune fille. Elle raconte sa propre infortune en entrant dans un récit détaillé des billets, des promesses, des aubades que le fils du duc, Fernando, avait multiplié pour obtenir ses faveurs. Et il y a un petit détail textuel. Je crois que ce qui est intéressant dans ce type d'analyse, c'est évidemment de voir comment des détails textuels qui n'ont pas grande importance dans un texte, par exemple le Quichotte, deviennent des éléments plus spectaculaires dans la représentation de théâtre. On verra à plusieurs moments le jeu avec la temporalité. Parfois, la pièce condense très brutalement ce qui est donné dans plusieurs séquences dans le Quichotte, ou à l'inverse. Ce qui est très bref dans le Quichotte devient le motif possible d'une amplificature. Ici, il y avait un détail que donnait Dorothea qui était « Las noches no dejaban dormir a nadie las músicas ». Les musiques, les aubades, les sérénades que lui faisait envoyer Fernando empêchaient tout le monde de dormir. Et c'est pourquoi, sur la scène de Drury Lane, ce désir de conquête de Enriquez prend la forme d'une sérénade donnée pour la Dorothea de la pièce, qui s'appelle Violante, et les didascalies, les indications scéniques disent « music plays ». Des musiciens sur la scène vont jouer, ce qui d'ailleurs peut se lier au fait que, encore, une tension, une contradiction. Vous vous souvenez que la restauration de Shakespeare était vouée à s'opposer à ce que certains considéraient comme une dégradation du goût anglais, le goût pour les pantomimes, le goût pour les brefs opéras, le goût pour les théâtres de marionnettes. Mais néanmoins, dans la pièce de Théobald, la musique joue un rôle important. Et ici même, dans la dernière scène du premier acte, il y a sur scène des musiciens qui jouent pour faire venir la jeune fille à sa fenêtre, ce que fait Violante, et du coup se noue un dialogue, et qui insiste ici en grande fidélité avec le texte de Cervantes sur l'inégalité des conditions. Elle est fille d'un paysan certes riche, mais d'un paysan, Dorothea, et Fernando est le fils du duc. Pour le Enriquez de la pièce, ce n'est pas un obstacle. Il déclare « l'obscurité de sa naissance ne peut éclipser le lustre de ses yeux ». Mais en même temps, pour Violante, c'est une raison de méfiance, cet écart des conditions sociales, puisque, dit-elle, elle a lu des histoires, je le crains trop vrai, où de jeunes lords, comme vous, ont fait le siège de modestes fenêtres, mis en verre leurs souffrances, et même abusé des choses divines, c'est-à-dire fait des promesses gagées sur une référence à la sacralité chrétienne, pour ériger de simples filles comme moi en idoles de leur adoration, puis ils les ont abandonnés aux pleurs de leur foi trop crédule et au mépris du monde. Donc il y a cette inscription ici de l'inégalité des rangs, des conditions, des états entre Violante et le fils du duc, qui est la raison de cette méfiance. Et on pourrait voir qu'ici, les personnages du Quichotte, comme vous le savez, ont lu. Non seulement certains ont lu Don Quichotte lui-même dans la deuxième partie, mais ils ont lu énormément. Et Dorothea, par exemple, a lu les mêmes romans de chevalerie que Don Quichotte lui-même a lu. Et ici, on voit qu'elle a lu des histoires, je le crains trop vraies, où il y a cette trahison des jeunes lords par rapport à celles qu'ils ont séduites en leur promettant le mariage, y compris en engageant les choses divines, et après les ont abandonnées. Cet horizon de lecture peut être différent de celui de la Dorothea de Cervantes, celui de la Violante de soit de Shakespeare et Fletcher, soit de Théobald, est un horizon de lecture de ces histoires sentimentales dans lesquelles ces abandons liés à la différence des conditions et à la vilénie des séducteurs étaient un thème récurrent. Et elle insiste, si Enriquez la veut, il doit poursuivre some nobler purpose, un propos plus noble, c'est-à-dire, à vrai dire, le mariage. C'est la seule condition pour lui de montrer qu'il est fidèle au serment qu'il a multiplié vis-à-vis de Violante. Alors, dans un utile monologue où Enriquez comprend que peut-être, d'ailleurs, derrière ce refus de Violante, il y a une invitation à rester, il se déclare résolu à la mésalliance. I must stoop to gain her, je dois m'abaisser pour la gagner, puisqu'après tout, finalement, dit-il, les titres ne sont qu'un héritage familial dû au hasard de la fortune. Il y a une petite nuance ici par rapport à la pièce, au texte de Cervantes. La première nuance, c'est que même si le personnage d'Enriquez est complexe et que souvent ce qu'il dit n'est pas nécessairement ce qu'il croit, dans toute la pièce, il est tout en oscillant constamment entre une justification de ses conduites et sa propre condamnation par lui-même de ce qu'il a fait. La mauvaise foi d'un côté et le repentir ou le remords de l'autre caractérise le personnage, qui lui donne d'ailleurs une densité dramatique plus intéressante pour un acteur qui devait jouer ce rôle et qui était un des acteurs importants de la troupe, Wilkes. Ici, on peut supposer qu'effectivement il est partagé entre cette même idée de accepter la mésalliance pour la force du désir et ce dédain qu'il manifeste dans cette réplique sur les hasards de la fortune qui l'ont fait fils du duc, et d'autre part son intention qui peut-être n'est pas au fond aussi sincère, ce qui expliquerait pourquoi la jeune fille Violante a quelques réticences. Et le deuxième écart, c'est que dans Cervantes, jamais Dorothea, avant la scène de séduction, n'envisage comme possible cette alliance, la desigualdad incommensurable entre son rang, fille de paysan même riche, et celui du fils du duc, est la raison pour laquelle, pensant ce mariage impossible, elle lui manifeste résolument indifférence, dédain, mais ce qui a eu pour effet, dit-elle dans le récit du Quichotte, d'accroître encore plus le lascivo appetito, l'appétit lascif de Fernando. La narration de la jeune fille dans le texte de Cervantes culmine dans cette scène extrêmement spectaculaire où, par trahison de sa servante, Fernando est introduit dans sa chambre, et c'est là où, à force de promesses, de serments faits sur les images des saints, faits sur les images de la Vierge, que finalement il bouleverse la jeune fille, qui à ce moment-là d'ailleurs devient plus complexe dans ses sentiments, parce que d'un côté elle pense qu'elle doit céder puisque mariage il y aura, sinon ses parents ne pourront jamais croire que Fernando a pu entrer dans sa chambre sans son consentement, et d'autre part on sent aussi passer dans le texte à un moment donné l'idée que ce mariage pourra élever sa condition, donc finalement que la tentation existe, la tentation sociale, et elle finit par céder aux ardeurs de son séducteur dans une phrase fameuse où dit-elle, lorsque sa servante Doncella a quitté la pièce, elle a cessé de l'être, Doncella au sens de vierge. Et du coup, il y avait là une scène extrêmement spectaculaire que Cervantes a écrit dans un style théâtral, puisque l'essentiel de la scène est un dialogue entre les pressions de Fernando, ses serments, sa foi jurée, ses références à la Vierge ou aux saints, ici présents par leurs images dans la pièce, et d'autre part, les réticences et finalement l'abandon de Dorothea qui, à un moment donné, avant de se rendre à Fernando, dans une sorte de monologue qu'on pourrait voir comme un monologue théâtral, balance l'ensemble de ces sentiments contradictoires, cette tentation de l'ascension sociale, le fait qu'il faut trouver une raison qui ne la fera pas condamner par ses parents, et finalement la certitude qu'elle acquiert progressivement de la sincérité de Fernando. Et le récit de Dorothea fait au curé, au barbier, à Cardenio, s'achevait ensuite par ce départ de Fernando qui a confirmé ses promesses par un geste symbolique. Il a mis une bague au doigt de Dorothea, une bague qu'il lui-même portait, mais elle rappelle ensuite la froideur qui avait commencé à naître chez Fernando dès qu'il avait obtenu ce qu'il désirait. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les dramaturges anglais de cette scène, qui est une des plus fortes dans la nouvelle, je me permets de le dire maintenant, de Cardenio, puisque vous vous souvenez que dans la préface de Théobald à Double Falsehood, il rappelait que l'histoire est fondée sur un novel extrait du Don Quichotte. Donc même si le texte n'a pas la structure d'une nouvelle inscrite à l'intérieur du Quichotte, comme l'est pour, par exemple El Curioso Impertinente, néanmoins, pour un homme du XVIIIe siècle, cette histoire sentimentale, même si elle était extrêmement entremêlée avec les aventures du chevalier errant, pouvait être désignée comme une nouvelle au sens de récit bref, le sens français de la nouvelle, ou novelle en italien. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le théâtre avec cette scène? Elle est, à ma connaissance, dans les textes que j'ai étudiés, jamais mise sur le théâtre. Comme si cette scène de séduction, qui s'achevait par l'acte d'amour, était impossible à représenter, à donner à voir, quelles que soient les conventions ou les règles du théâtre. Et c'est bien ce qui se passe avec Double Falsehood, dans la mesure où la scène de séduction est rapportée, et cette fois, non pas par Violante, mais par Enriquez lui-même. Et c'est la première scène forte du second acte, dans lequel la scène de la séduction, de la reddition de la jeune fille, de la promesse de mariage par Enriquez Fernando est donnée à entendre au spectateur dans la voix de Enriquez et avec cet ajout considérable par rapport au texte de Cervantes, qui est la tension ou la contradiction, que l'on peut prendre pour sincère ou comme feinte, de Enriquez, puisqu'il commence Le monologue commence assez puissamment par le regret, le chagrin. Just doom of guilty joys, juste jugement de plaisir coupable. Ce sont des sentiments qu'on ne rencontre jamais à aucun moment dans le Fernando de Cervantes. Et Enriquez, dans cette recollection, dans cette mémoire de cette scène, la promesse de mariage, ces milliers de serments, rappelle que cela n'a pas suffi à faire céder la jeune fille, mais qu'elle n'a cédé que par la violence qu'il exerça. Seulement par force, je dérobais le plaisir impur qui maintenant tourmente ma mémoire. Ce n'était pas l'amour, mais une violence brutale qui l'emporta, à laquelle le moment, le lieu, l'occasion n'ont fait qu'ajouter les plus déshonorantes circonstances. Honte, honte sur cela. Bon, d'ailleurs, entre parenthèses, il n'existe pas, à ma connaissance, de traduction française de Double Falsehood, donc c'est ma propre traduction que vous entendez. Il en existe une traduction espagnole, curieusement, utilisée et présentée comme s'il s'agissait du Cardenio de Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a eu une édition récente en Espagne d'une pièce qui a pour auteur William Shakespeare et John Fletcher, qui s'appelle Cardenio. Il y a une mention sur la page de couverture, la première adaptation théâtrale du Don Quichotte de Cervantes, et qui crée un entier mystère pour ceux qui connaissent cette intrigue, puisque cette pièce n'existe pas. Alors comment la traduire? Et donc, du coup, évidemment, la traduction qu'on rencontre dans cette édition espagnole, c'est la traduction du texte de Théobalde, mais qui est d'ailleurs mentionné dans la préface, mais évidemment, comme s'il fallait le mettre de côté pour aller directement de la page de titre, le Cardenio de Shakespeare et Fletcher, à la traduction que l'on peut lire. Jusqu'alors, personne n'a fait ça en français, donc du coup, ce sont mes propres traductions que vous entendez. Mais ce qui est important ici, c'est une chose tout à fait différente de Cervantes, puisque ce que dit Enriquez, c'est pratiquement la narration d'un viol. « By force alone, I snatched the imperfect joy. » Et plus loin, il dit « Not love, but brutal violence. » Prevailed. Ce qu'il a emporté, ce n'était pas l'amour, mais c'était la violence brutale. Alors, dans le cas de la scène chez Cervantes, ce n'est pas peut-être non plus l'amour, ou du moins un amour qui s'est déclenché récemment chez Dorothea, c'est le fait qu'elle se considère comme mariée à partir du moment où il y a ces promesses garanties par l'invocation des saints et de la Vierge, et ce qui fait que, peut-être tentée par Fernando, tentée à la fois par sa personne et sa condition, elle cède à ses demandes. Mais dans le cas de ce monologue d'Enriquez, on voit que le déplacement se fait, peut-être pour créer un effet dramatique plus fort, sur le fait qu'il s'accuse lui-même de cet usage de la force et de la violence, alors que aucune des promesses n'avait suffi pour que la jeune fille se rende. Ce qui nous renvoie à un thème que je vais développer plus avant et que, pour ceux qui ont participé au cours l'année dernière, connaissent déjà, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le mariage au XVIe et XVIIe siècle, et dans le cas avec Théobald, au XVIIIe siècle. Et dans on voit que cette différence est liée à ça. Dorothea de Cervantes prend les promesses de présent comme un sacrement qui fait qu'elle est mariée et donc qu'elle peut céder à celui qui maintenant est son mari. Alors que, évidemment, au XVIIIe siècle, et peut-être même auparavant, ces promesses de présent ont perdu ces forces sacramentelles. Et du coup, Violante, elle, ne se considère pas comme épousée par Fernando sous prétexte par Enriquez, sous prétexte qu'il a fait promesse de mariage. Et donc, du coup, elle ne cède pas. Ce qui fait que le recours à la force et la violence, force and violence, sont les raisons, les instruments pour qu'elle soit séduite et conquise par Enriquez. Mais ce qui est aussi intéressant, je pense que l'acteur devait trouver cela intéressant, c'est le fait qu'immédiatement après avoir énoncé cette culpabilité, ce jugement juste et tragique qui tourmente sa mémoire pour l'exercice de la violence, il y a comme un mouvement en retrait de Enriquez qui va multiplier les excuses pour amoindrir son crime. Was it a rape then? Est-ce que c'était vraiment un viol? Il se pose la question à lui-même et il s'en défend en disant « Certes, ses cris, ses clameurs m'ont fait s'éloigner d'elle. C'est vrai qu'elle n'était pas consentante. C'est vrai qu'elle résista. » Mais, il ajoute, « mais en silence. » Et c'était plus l'expression d'une épousée modeste que d'une vierge violentée, « a ravished maid ». Donc on a là une sorte de mouvement en arrière pour amoindrir ce qui avait été énoncé comme violence et force, comme viol, et dans cette tension du personnage, de repousser cette culpabilité qui semblait l'accabler et qui maintenant est mise à distance. Et d'autre part, il y a une excuse qui va revenir très souvent chez Henriques, c'est-à-dire que de porter à l'universel ses conduites, et dit-il, quel homme ne prendrait-il pas le risque de se sentir coupable pour le prix du plaisir? Et l'on voit que le basculement se fait, qui va définir la personnalité d'Henriques plus proche, dans un sens, du Fernando de Cervantes comme un personnage vil, dans la mesure où ici, c'est plutôt les tourments que lui crée la possibilité de voir ruiner son honneur par les pleurs, par les clameurs de Violante qui le préoccupe. Ce qui est clair, c'est que cet examen de conscience sincère ou duplice de Henriques n'a aucun parallèle dans le texte de Cervantes. Il est tout à fait étranger à Fernando. Il n'apparaît évidemment pas chez Fernando, mais il n'apparaît pas non plus chez Violante, chez Dorothea, qui simplement rappelle sa séduction et qui ensuite rappelle la froideur qui immédiatement a suivi de la part de Fernando. Et je pense que là, le point fondamental, peut-être que les commentateurs n'ont pas vu, c'est le fait que Dorothea cède à Fernando comme une femme épousée qui accepte la consommation du mariage avec son mari. Elle n'accepte de n'être plus Doncella qu'après les serments réitérés de celui-ci. Là, je prends la traduction française de la Pléiade, de ce passage du récit de Dorothea racontant la scène de la séduction. Don Fernando se saisit d'une image qui se trouvait dans ma chambre et l'a pris pour témoin de nos épousailles. Avec les mots les plus efficaces et les serments les plus extraordinaires, il me donna sa parole d'être mon mari. Don Fernando réitéra, confirma ses serments. Il ajouta de nouveaux saints à ceux qu'il avait pris à témoin. Il s'adressa à lui-même 1000 malédictions à venir si jamais il ne tenait pas sa promesse. Et au moment de quitter Dorothea, comme dans un rituel, il s'engage en passant un anneau au doigt de la jeune femme. Et au moment de prendre congé de moi, même, et c'est là la nuance, sans la même ardeur ni la même véhémence qu'à son arrivée, il me dit d'être assuré de sa foi, ainsi que de la force et de la vérité de ses serments. Et pour me confirmer plus encore sa parole, il ôta de son doigt un riche anneau et le passa au mien. Cher Cervantes, finalement, ce qui est présent dans cette scène, c'est au moins dans la perspective de Dorothea, l'ancienne définition du mariage, c'est-à-dire le sacrement présent dans l'échange des promesses. Et on le voit dans le récit d'Henriques, qui serait comme le parallèle inversé du récit de Dorothea. Cela n'a pas suffi à faire céder Violante, comme si, dans ce monde social, la promesse de mariage n'était plus mariage, simplement un premier pas vers ensuite le sacrement qui est entièrement résident à l'intérieur du rituel tel qu'il a été défini par le Concile de Trente. L'autre grande différence entre le récit de Cervantes et d'Obol Falsehood, c'est le fait que dans ce même monologue, où Henriques commence par le sentiment écrasant de sa culpabilité, ce recours à la force et à la violence. Puis ensuite, s'en détache avec un prétexte que chaque homme aurait fait la même chose. Et d'autre part, surtout plus sérieusement, le fait qu'il essaye de détecter dans la conduite de Violante des éléments qui le disculperaient d'un viol, il a immédiatement situé la raison de son abandon de Violante pour son amour subit pour Leonora. La belle Leonora est la maîtresse sans partage et la reine tyrannique de mon cœur rebellé, et Violante n'y est qu'une impuissante usurpatrice. Donc ces éléments qui, dans le Quichotte, étaient séparés, c'est-à-dire que Fernando, après la séduction de Dorothea, montre cette froideur ou l'absence de la même ardeur, mais simplement parce que ses désirs sont comblés et que finalement pour lui la promesse de mariage n'impliquait pas forcément la force sacramentelle que Dorothea, elle, y reconnaissait. Et c'est simplement à suite de plusieurs épisodes que, rencontrant Cardenio appelé à la cour, il revient avec Cardenio dans le lieu où celui-ci habite. Cardenio a l'imprudence de lui faire connaître son aimée, Lucinda, et en particulier avec ce moment clé où, dans la nuit, regardant à la fenêtre de Lucinda, Fernando la voit ensayo, en vêtements de dessous, ce qui est d'ailleurs un détail qui ne se trouvait plus dans la traduction de Shelton. Et du coup, immédiatement, à ce premier regard, est saisi par le désir de conquérir Lucinda. C'est donc une série de séquences qui amène à ce moment où Fernando va trahir son ami Cardenio pour pouvoir, dans ce cas-là, épouser Lucinda. Et on a là tout un ensemble d'épisodes, ce moment de du premier regard, qui pourrait, si vous vous souvenez du séminaire fait sur le des nobles cousins la semaine dernière, pourrait être un thème que l'on retrouverait en écho avec ce qui se passe dans cette pièce écrite par Shakespeare et Fletcher dans les mêmes années, c'est-à-dire le désir immédiatement enflammé par un premier regard pour une personne dont on ne sait rien. C'est le cas des deux cousins pour Emilia, c'est le cas de la fille du geôlier pour Palémon. Et là, on retrouve le même élément qui est renforcé ensuite parce que Cardenio fait lire à Fernando les lettres échangées avec Lucinda, et c'est ce qui explique pourquoi Fernando va vouloir et obtenir le retour de Cardenio à la cour pour rester maître d'un champ libre pour pouvoir convaincre le père de Lucinda de lui donner sa fille, et donc du coup de ne pas être l'avocat que Cardenio espérait, mais pour son propre compte, obtenir la main de la jeune fille. Dans cette série de séquences est condensée dans un seul monologue, celui de Enriquez, qui, un peu comme au moment de ce brutal passage qu'on a très souvent d'ailleurs dans des textes shakespeariens, le transfert des affections au premier regard, c'est ce qui arrive à Roméo, se retrouve ici, puisque le dédain pour Violante et la passion ou le désir pour Leonora sont collés immédiatement l'un à l'autre. Le tumult in his heart, qui est né de cette vision de Lucinda, dans le cas Leonora, est plus fort que tout, est plus fort que l'amitié avec Giulio. Et là encore, il y a cette sorte toujours de référence à l'universel, puisque Enriquez dit « Seuls pourront le condamner, lui, Enriquez, ceux, je cite, qui, nés sans passion, n'ont jamais éprouvé le combat entre vertu et désir. » Twist, virtue and desire. Alors les scènes 2 et 3 du second acte de Double Falsehood puisent dans les deux récits de Cardenio, chapitre 23, de Dorothea, chapitre 26, ou 28, pardon, qui disent la même histoire, mais dans le Cervantes, ce qui est tout à fait évidemment prenant, saisissant pour le lecteur, c'est la même histoire racontée par deux personnages à partir de ce que chacun en a vécu ou en sait. Et cette structure complexe où les deux récits de Cardenio et de Dorothea se superposent et en même temps s'écartent, ce qui produit cet effet de reconnaissance et en même temps de surprise, est très difficile ou impossible à mettre en scène, puisque normalement, au moins au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, une pièce de théâtre suppose que les événements sont racontés dans un ordre séquentiel et une chronologie linéaire qui fait que les faits advenir les uns après les autres. Les durées entre les événements peuvent être dilatées ou condensées, mais le respect d'une réécriture dramatique selon un ordre chronologique de ce qui, dans Cervantes, est une série de récits qui sont toujours enracinés à partir du présent où ils sont faits et sont construits rétrospectivement, comme finalement des récits de mémoire, et où chacun des récits d'abord de Cardenio, puis de Dorothea, puis finalement de Fernando, ajoute ce que le personnage précédent ignorait, d'ailleurs du coup le lecteur, jusqu'au moment où il rencontre le personnage suivant. Cette structure d'écriture si subtile et complexe est évidemment rendue beaucoup plus simple par un ordre chronologique et linéaire des événements. Dans le cas du récit de Cervantes, la trahison de Fernando est antérieure à sa rencontre avec Lucinda. C'est simplement que la passion apaisée, ses sens satisfaits, il s'est éloigné de la jeune fille, il n'est plus que silence et indifférence, et jamais il ne revient la visiter dans sa chambre. Et c'est, elle apprend à un moment donné qu'il a quitté la ville et qu'il s'est marié à une doncella hermosissima qui est Lucinda. Dans la pièce anglaise, c'est par une lettre que Violante apprend ou est renforcé dans la conscience que le fils du duc l'a abandonné. Cette lettre, dont on entend lecture, puisqu'elle est lue à haute voix par Violante, dit « La prudence doit maintenant nous enseigner à oublier ce que notre imprudence nous a fait commettre ». Et les réactions des deux personnages sont complètement différentes face à cet abandon. Dans le cas du Quichotte, Dorothea étouffe sa colère, sa rage, pour ne pas exposer son déshonneur. Elle s'habille en berger et part à la recherche de celui qui l'a trahi, mais qu'elle tient pour son mari. Elle se considère comme épousée par Fernando. Dans la pièce anglaise, Double Falsehood, Violante, elle, au contraire, dans un monologue plus spectaculaire, laisse éclater son désespoir et sa honte. « Je suis devenu maintenant le tombeau de mon honneur, une sombre demeure que seul peut habiter la mort. Je t'invite, désolation dévorante, dans ce temple qui accueille maintenant ta dépouille, le tissu déchiré qui ne peut être réparé une fois qu'il a été détruit. » C'est évidemment une allusion directe à l'hymen « The Ruined Fabric » which cannot be repaired at once overthrow. Donc il y a là, et c'est une belle écriture de ce monologue, je suis maintenant the tomb of my honor, a dark mansion for death alone to dwell in. Je t'invite, toi, consuming desolation, to this temple, now fit to be high spoil. Et de là, ensuite, la présence directe de cette allusion à la perte de la virginité. Et le monologue se termine d'ailleurs par un triple adieu, trois vers construits avec le même premier mot, « Whom ». Adieu mon père que je n'offenserai plus, adieu aux hommes que je ne croirai plus, et adieu aux jeunes filles auxquelles je ne ferai plus honte. Et l'anglais est évidemment meilleur que ma traduction, « Farewell my father, whom ». I shall no more offend, je n'offenserai plus mon père, and men, adieu, whom I shall no more believe, adieu aux hommes que je ne croirai plus maintenant, and maids, et vous, jeunes filles, adieu, whom I shall no more shame, auquel je n'apporterai plus de honte. Et le monologue se termine, sorrow will be my guide. Le chagrin sera mon guide. Bon, je ne sais pas si je peux peut-être faire comme on l'avait demandé, une petite suspension ici de 5 minutes pour ensuite reprendre l'analyse comparée de cette des scènes dans Double Falsehood et Cervantes. Et vous voyez où l'idée, évidemment, c'est un travail minutieux sur des fragments de texte, des détails textuels, mais où le but est de montrer que derrière des structures d'intrigue qui pourraient être comparables, c'est la même histoire. La multiplicité des écarts nous renvoie à la fois au fait qu'un texte change parce que le monde change, comme disait Pierre Bourdieu, c'est-à-dire le fait que les mêmes scènes, les mêmes actes peuvent acquérir des significations totalement, ou les mêmes lignes du texte peuvent acquérir des significations tout à fait différentes selon les contextes sociaux, politiques et culturels. Et d'autre part, c'est un effort pour essayer d'entrer dans le travail même de qu'est-ce que c'est qu'une révision, une adaptation, une réécriture, comment des matériaux qui sont donnés peuvent être profondément déplacés ou transformés par des détails qui ont à voir avec l'étirement ou la condensation de la temporalité, la caractérisation différente d'un personnage, l'effacement d'une réalité, au contraire, l'introduction amplifiée d'autres réalités, par exemple ces rapports de conflit entre les pères et les enfants. C'est là le double but que j'essaye de poursuivre dans ce type d'analyse. Si vous voulez bien, donc, on pourrait reprendre dans 5 minutes, à 11h07 ou 11h10, pour être plus généreux, le temps de permettre de sortir pendant quelques minutes.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.